Notre bien-aimé Père Céleste. Merci pour cette réunion, ce rassemblement. Nous te demandons de remplir la réunion et de nous sanctifier tous. Et remplis vraiment cette réunion. Accorde-nous à tous vraiment un esprit de sagesse et de révélation pour que tu nous parles au travers de cette deuxième épître de Pierre. Nous avons le désir d'aller de l'avant, de gagner vraiment cette entrée dans le royaume. Et nous prions que tu nous montres le chemin. Nous prions pour chacun d'entre nous ici, pour que tu nous bénisses. Seigneur est rempli de plein de miséricorde de nous rassembler au travers de beaucoup de triomphes et des souffrances. Comme il dit dans Pierre, la souffrance va nous amener à la gloire. Et je crois vraiment que le prix à payer, le prix que vous avez payé pour venir ici, ne peut et ne sera pas comparé aux bénéfices en gloire que le Seigneur va nous révéler dans 2 Pierre. Et le Seigneur aussi pour tous les frères et sœurs qui ne sont plus visibles, mais tous les saints aussi par Zoom, qui peuvent aussi joindre. Je suis censée donner une introduction. Laissez-moi le dire de cette manière. Je crois que pour nous, en particulier dans le premier chapitre de 2 Pierre, le fardeau est de nous montrer comment entrer dans le royaume. Une riche entrée dans le royaume. Son fardeau et ce qui est dans son cœur, c'est vraiment que nous y arrivions tous. Le Seigneur veut vraiment nous être notre berger. Vous vous souvenez que Pierre, le Seigneur a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur a dû lui demander 3 fois. C'est vraiment bien. La première fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il avait pas mal de confiance. Il a dit oui, je t'aime. Et le Seigneur lui a dit, alors, nourris, paie mes brebis. Et ensuite, il a à nouveau posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Je crois que Pierre ne se sentait plus si bien à ce moment-là. Et il s'est souvenu, oups, je l'ai quand même renié 3 fois. Alors, le Seigneur lui a demandé à nouveau, m'aimes-tu? Il a à peine osé répondre. Oui, Seigneur, tu sais. Et le Seigneur lui a répondu, paie mes brebis. Et il a pensé, bon, c'est fini. Mais le Seigneur lui a demandé une troisième fois, comment est-ce que tu aurais apprécié cela si tu étais Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Je crois qu'il ne pouvait plus répondre à ça. Seigneur, tu sais. Parce qu'il avait tellement de confiance. Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la croix. Mais là, le Seigneur Quand il lui a dit ça, le Seigneur lui a répondu, avant que je sois à la croix, tu vas me renier 3 fois. 3 fois, tu vas me renier. Souviens-toi de cela. Donc, je pense que Pierre avait vraiment ce cœur de paître les brebis, de paître l'Église. Il avait un tel fardeau. Donc, sa première épître. Sa première épître n'est pas aussi forte que la deuxième, même si elle est plus courte. Il y avait le besoin pour une deuxième épître. Bien sûr, dans la première épître, il a montré tellement de choses. Ce n'est pas dit d'une manière générale. Mais là, il est précis, il dit que la foi va passer par des tribulations et on doit être sanctifié. Et il y a cette semence incorruptible, c'est un peu général, mais après, il va plus précisément sur comment nous pouvons avoir la réalité, le salut. Et il a montré que nous sommes ce sacerdoce royal et saint. Et il montre aussi, Christ est mort pour nous. Nous étions comme des brebis. Le Seigneur est mort pour nous ramener. Il est le berger de nos âmes. Il mentionne aussi qu'il est mort à la croix, pas juste pour la rédemption, mais souvenez-vous, être un exemple. C'est pas juste qu'il est mort là et qu'il a souffert à la croix, mais sa souffrance à la croix est un exemple pour nous à suivre. On est très reconnaissant qu'il soit mort, mais combien ont pris sa mort? Sa mort à la croix est plus que juste pour la rédemption. C'est un exemple pour nous à suivre, pour que nous suivions ses traces. Ses traces pour où? Pour la gloire. Parce que sans souffrance, il n'y a pas de gloire. Donc, Pierre avait ce fardeau de partager sur les souffrances. Et alors, il montre le chemin pratique de l'Église au chapitre 5. Comment les anciens devraient être un exemple pour le troupeau. Toutes ces choses sont magnifiques d'une certaine manière, mais elles restent générales. Donc, il y avait le besoin d'une deuxième épître. Il y avait vraiment un besoin d'une deuxième épître. Et là, son fardeau principal est comment atteindre le but. Donc, sans deux pierres, on n'a pas vraiment de chemin spécifique pour atteindre le but. Le but, c'est le royaume éternel de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur revient bientôt, vraiment bientôt. Le Seigneur a dit que le temps était proche. Tous les apôtres il y a 2000 ans, le Seigneur a dit, voici, je viens bientôt. Les gens vont dire oui, mais bon, 2000 ans après, il n'est toujours pas venu. Pierre le dit au chapitre 3, n'est-ce pas? Les gens disent non, il ne vient pas. Ou en tout cas, pas bientôt. Ça fait déjà des 2000 ans, puis il n'est toujours pas là. Que pensez-vous? Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il ne vient pas? Encore 2000 ans? Encore 200 ans? 20 ans? 2 ans? Peut-être. Pour nous, peut-être même moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Avant qu'on plonge dans le chapitre de, dans le, l'épître de 2 Pierre, que vous l'aimiez ou pas, que ça vous plaise ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais le Seigneur vient très bientôt. Laissez-moi vous rappeler encore une fois au sujet de Daniel 9, 27. Si vous lisez le livre de Daniel, Daniel 9, 14, le Seigneur lui parle de 70 années pour le peuple et pour Jérusalem. 70 semaines. Et ensuite, verset 25, il parle de 69 semaines et une semaine. Et ensuite, il nous dit, à la fin des 69 années, que va-t-il se passer? Le Messie sera retranché. Et alors, Jérusalem va devenir, va être détruite. Et là, on sait historiquement qu'à ce moment-là, l'empereur romain a rasé Jérusalem. C'était la fin des 69 semaines. Et ce qui a été annoncé va se passer de la même manière que ça s'est déjà passé. Et alors, il reste cette dernière semaine. Qu'est-ce qui reste dans cette dernière semaine? Le Seigneur ne va pas nous laisser deviner. Il va vraiment nous dire très clairement. Et cette semaine, cette 70e semaine, on a eu un rappel, une mise à jour à ce sujet dans Hébreu. Et la bonne traduction. Il y a 70 semaines, après il y a 62 semaines, plus 7 semaines. Il y a 7 fois 7, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a la dernière semaine qui reste encore. Cette dernière semaine, que va-t-il se passer? Quelqu'un. Il, en vérité, le « il » n'existe même pas dans la parole. Il a été interprété, mais il fera une alliance avec beaucoup. Donc, en fait, cette, la parole ne relie pas, en fait, ne précise pas dans Daniel 9, 27 que cette alliance avec la multitude sera pour une semaine. En fait, en vérité, dans, en hébreu, il ne dit pas que l'alliance durera une semaine. C'est deux choses séparées. Mais il dit juste que quelque chose va se passer pour nous montrer que cette semaine est proche. Et ça, c'est Cette alliance établie par la force avec beaucoup, c'est relié à une semaine. Mais ça ne veut pas dire que l'alliance va être limitée par cette semaine. Donc, autour de cette période, il va y avoir une semaine qui va se passer. Donc, cette alliance avec une multitude va arriver. Et c'est sûr, c'est les accords d'Abraham. On n'a pas juste lu cette information hier matin. Ah, j'ai lu hier matin que Netanyahou reforme son gouvernement et il parle des choses principales qu'il va faire en tant que premier ministre. Et une des trois, c'est de promouvoir et confirmer, renforcer ces accords d'Abraham. Et un des pays arabes va joindre cela. Les accords d'Abraham sont reliés au début de cette dernière semaine. C'est relié. Le 15 septembre 2022, les accords d'Abraham ont été faits par Trump. Pas de 22. Ensuite, le deuxième point de la dernière semaine, qu'est-ce que c'est? Les sacrifices. Les sacrifices d'animaux. Parce que ce verset 27 nous dit au milieu de la semaine, donc quelque chose va se passer pour le début de la semaine. Et maintenant, autre chose va se passer au milieu de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc maintenant, on sait quel est le signe du milieu de la semaine. En septembre dernier, le 15, exactement 2 ans après que les accords d'Abraham aient été faits, le 15 septembre 2020. Exactement la même date, 2022, des vaches rousses ont été transportées parfaites du Texas jusqu'à l'aéroport de Tel Aviv. Ça a été fait en secret. Elles sont parfaites. Et ça, c'est vraiment nécessaire par rapport à nombre 19. De cette vache rousse dont la cendre est nécessaire pour l'eau de purification, pour la purification du temple. Parce que sans ça, il est impossible pour les Juifs de commencer un quelconque sacrifice. Pendant près de 2000 ans, personne n'a trouvé de vache rousse parfaite. Elle doit être parfaite. Tu ne peux pas trouver le moindre poil qui ne soit pas roux sur elle. Et je crois que la dernière, était il y a plus de 2000 ans. Oui. Ça a été fait par Moïse. Le sacrifice de la dernière vache rousse. Cette vache rousse parfaite a été découverte quelque part au Texas par une personne qui les a élevées, qui avait ce fardeau d'élever ces vaches rousses. Et maintenant, elles ont toutes une année. Elles avaient toutes une année quand elles ont été livrées. mi-septembre 2022. Est-ce que vous croyez que c'était un hasard que jour pour jour, 2 ans après les accords d'Abraham, elle soit livrée? Ça veut dire qu'elles seront prêtes pour septembre 2023. Elles auront 2 ans à ce moment-là. Elles auront pile 2 ans. Ça signifie que les Juifs sont vraiment excités à ce sujet, de pouvoir offrir à nouveau cette vache rousse, pour avoir cette cendre, la mélanger avec l'eau et pouvoir avoir l'eau de purification. Amen. C'est-à-dire que tout sera prêt pour cette adoration. L'autel est déjà prêt. Il n'a pas besoin d'être transporté. Il n'a pas besoin. Il est prêt à l'Institut du Temple. Donc on voit que ces 2 signes sont très, très spécifiques pour la dernière semaine. L'alliance avec beaucoup. Est-ce que vous avez des doutes au sujet des accords d'Abraham, que c'est l'accomplissement de cette alliance, en particulier avec Abraham, le père de nombreuses nations? Et ensuite, les vaches rousses. Après tellement d'années, soudainement, là, il n'y en a pas juste une, il y en a 5. Il y en a au moins une des 5 qui devrait rester parfaite. Que pensez-vous? Quand est-ce que le Seigneur va revenir? Dans 20 ans? Je pense 2 ans. Au moins. En tout cas pour nous, parce qu'il y a encore 3 ans et demi après pour sa venue visible, mais pour sa venue secrète, pour enlever les prémices. Et l'enfant mâle, il y a peut-être moins de 2 ans. On ne peut pas le dire de sûr. À quel pourcentage pensez-vous cela? Il est le scientifique. Si ces 2 facteurs étaient l'accomplissement nécessaire pour Daniel 9:27, alors, c'est dans moins de 2 ans. Ça va être proche. Si. N'oubliez pas que j'ai dit si. Ce mot si. Si, nous avons raison. Alors, 2024 est une année très importante. Et beaucoup de personnes parlent déjà de 2024 maintenant, n'est-ce pas? 2024 aux États-Unis va être une grande année, n'est-ce pas? Donc, préparons-nous. Nous avons besoin d'être préparés. Parce que le temps est court. C'est pourquoi Pierre parle de la venue du Seigneur. Chapitre 1, il nous montre ce que le peuple de Dieu doit faire pour avoir une riche entrée dans le royaume. Et au chapitre 2, il nous avertit contre beaucoup de faux enseignements. On les voit partout. Ils disent aux gens ceci, cela. T'as pas besoin de te préparer, t'es né de nouveau, c'est bon. T'es un chrétien, bah tout va bien. T'inquiète pas, tu seras pris. Qu'est-ce que c'est pour un enseignement? C'est vraiment pas dans la parole. N'est-ce pas? Vous croyez cela? Tu es né de nouveau? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Ah, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas être pris. Tout le monde croit ça. Non. Si quelqu'un te dit cela, qu'est-ce qu'il est pour une sorte d'enseignant? C'est un faux enseignant. Mais demande au Seigneur. C'est à demi-vrai comme enseignement, ce n'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que l'évangile n'est pas juste. Sois sauvé et pardonné. Et c'est tout le chemin aussi qui amène au salut. Le Seigneur et ses disciples ont annoncé « Repentez-vous et vous irez aux cieux. » Non, ils ont dit « Le royaume est à la porte. Le royaume est proche. » Donc l'évangile, ce n'est pas juste que tu reçois le pardon des péchés et tu vas aux cieux. Ce n'est pas juste. Aujourd'hui, nous avons un problème avec tellement de faux prophètes et de faux enseignants. Déjà, au temps des apôtres, ils avaient cela. Déjà, avant l'âge des apôtres, il y avait tellement de faux prophètes qui opposaient les apôtres au Seigneur qui disaient au roi des choses différentes. Et le Seigneur nous avertit, le Seigneur Jésus nous avertit nous avertit que beaucoup de faux prophètes, faux enseignements seront annoncés. Déjà au temps du Seigneur, il y avait les pharisiens, les anciens, des scribes qui disaient des choses vraiment différentes et qui tournaient même les gens contre Jésus, contre le Seigneur. Déjà du temps du Seigneur, c'était le cas. Et vous croyez que ce n'est pas encore le cas pour nous aujourd'hui, que ce genre de personnes n'existe plus? Mais les avertissements de Pierre sont tellement forts. Je ne sais pas qui va partager au chapitre 2, mais l'avertissement de Pierre à ce sujet est très très fort. Il vous faudra beaucoup de grâce pour partager ce sujet. Regardez tous les mensonges, qui sont transmis par les prophètes principaux, par les médias principaux. Ce sont des faux prophètes qui disent des mensonges aux gens. Nous devons voir que Pierre avait vraiment un fardeau pour chacun de nous, pour que nous y arrivions. Et il nous montre le chemin pour y arriver. Pour et au point. Il ne dit pas tellement d'autres choses. Il dit, si vous faites ceci, vous ne broncherez jamais. Il nous a montré le chemin pour avoir une entrée riche dans le royaume éternel. C'est pas tellement dur, c'est juste un chapitre. Ne me dites pas non, c'est trop difficile, je vais pas y arriver. C'est juste un chapitre. Est-ce que tu peux mémoriser un chapitre? Non, c'est trop dur. On arrive à mémoriser un verset, n'est-ce pas? Et ajoute vous avez fait tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est simple, ça veut dire qu'on peut tous le faire. C'est pas difficile. Un chapitre. C'est le dernier rappel de Pierre. Il savait qu'il allait quitter ce monde, qu'il allait aller avec le Seigneur, il allait quitter son tabernacle terrestre. Et il répète, je vous rappelle, je fais de mon mieux pour vous rappeler. Il y a tellement de choses dans la parole, mais le rappel est tellement important dans son cœur. Et il l'a vraiment compressé en un chapitre. Si vous faites attention à ce chapitre, vous ne broncherez pas et vous gagnerez une riche entrée dans le royaume. Bien sûr, nous voulons entrer. Bien sûr, nous voulons entrer. C'est vraiment tout ce dont il est question. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'un Pierre n'est pas important, mais sans deux Pierres, il manque vraiment quelque chose. Quelque chose de vraiment crucial manque. Que le Seigneur ouvre nos yeux et nous donne ce fardeau. Je crois que les frères vont faire un bon travail de communion avec nous. Ne croyez pas que ce soit un petit point. La foi précieuse, par exemple. Laissez-moi commencer. De Pierre 1:1. Premier verset. Il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Esclave et apôtre. En anglais. J'aimerais vraiment lire ce verset. Pierre, pourquoi est-ce que tu t'appelles encore Simon? Est-ce que le Seigneur n'a pas changé ton nom? Imagine, tu es Pierre et le Seigneur a changé ton nom de Simon, fils de Jonas, à Pierre. Si le Seigneur a changé ton nom, ce n'est pas la première fois que le Seigneur a changé un nom dans le Nouveau Testament. Pierre. Ça a dû être très impressionnant pour lui. Comme des pierres vivantes, je ne crois pas qu'on va oublier. En grec, il y a vraiment cette différence. En fait, pierre, c'est un caillou, c'est pas un. C'est plus un caillou, c'est pas un roc. n'est pas plus important que ses collègues, mais il est une pierre. On est tous des pierres, et le Seigneur lui-même est la pierre principale de l'angle. Il n'a jamais oublié cela. Et je suis étonnée que là, ils disent « Simon Pierre, que penses-tu ?» Il aimait trop son premier nom. Tu ne changerais pas ton nom, n'est-ce pas ? Après que j'ai changé mon nom de Choua à So, j'ai plus jamais changé mon nom. C'est mon vrai nom. Là, le Seigneur lui a dit, « Tu es Pierre, et je ferai mon église sur le roc. » Et ça, c'est inscrit pour toujours en lui. Mais pourquoi, ici, est-ce qu'il mentionne Simon-Pierre dans un Pierre? Il ne dit pas ça. Mais là, dans deux pierres, il dit ça. Il doit y avoir une raison. Je n'aurais pas dit ça si j'étais Pierre. Mais là, dans ces dernières années de ma vie, je ne crois pas que qui que ce soit parmi nous n'aimerait regarder en arrière. As-tu une belle histoire derrière toi? Né comme le Seigneur, le Saint. Je me souviens avoir lu le psaume 51. David l'a écrit parce qu'il a fait un péché terrible et il s'est repenti. Il s'est repenti et sa repentance est allée tellement loin qu'il est retourné jusqu'au ventre de sa mère. Il dit, je suis né dans le péché, déjà dans le ventre de ma mère. Il a fait ce terrible péché et il est revenu en arrière jusque-là pour se rappeler qu'il est né dans le péché. Et il dit, Seigneur, c'est seulement devant toi que j'ai péché. Ce n'est pas juste devant les hommes, mais c'est surtout devant toi. Est-ce que vous croyez qu'il a aimé se rappeler cela? Mais il a été rappelé à ça par Nathan. Il dit à Nathan, c'est qui cet homme dont tu parles? Il était scandalisé. Quoi, cet homme? Mais il mérite de mourir. Et Nathan lui a dit, tu es cet homme. Tu es cette personne. Ça l'a tellement choqué. Il avait oublié. Il croyait qu'il avait raison. Il croyait même, oh, mais je ne l'ai pas tué, il est mort à la guerre. Il avait une excuse pour tout. N'as-tu pas souvent une magnifique excuse pour chacun de tes péchés? Non? Moi, j'ai raison. J'ai rien fait de faux. N'est-ce pas? Toi aussi, qui d'autre? Il s'est souvenu de cela. Il s'est vraiment repenti. D'une telle manière que probablement plus personne jamais ne s'est repenti d'une telle manière. Il s'est repenti profondément. Il est entré dans le fond de la conscience de son cœur. Et il a pleuré devant le Seigneur. Il a crié au Seigneur pour être purifié. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être transformé. Ce n'est pas juste un changement de nom. C'est facile de changer mon nom. J'ai changé mon nom en allant juste signer une pièce de papier. Mais pour que le Seigneur te change, toi et moi, en une pierre vivante, précieuse. Combien de temps ça prend? Es-tu complètement changé maintenant? Quel âge as-tu? 30 ans? Quoi? Tu as 30 ans? Mais tu devrais... Tu es depuis 30 ans dans la vie de l'Église. 32 ans? Tu devrais déjà être complètement transformé. Et si tu me demandes, et toi, grand-papa, à 80 ans, es-tu complètement transformé? Je vais te dire, oula, non, laisse-moi partir. Tu crois que c'est facile de changer? Quand le péché est entré en nous, on est devenu esclave du péché. Paul a dit « Malheureux que je suis », alors que dans Romains 7, il dit « Je suis un homme maudit qui pourra me sauver de ce corps de mort ». Du péché, du corps de péché. Tu penses que Paul a tout oublié de son passé? Ça devait revenir encore et encore, mais merci Seigneur pour le sang précieux, parce que dans la nouvelle alliance, on a le sang et il nous dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » C'est vrai, je crois cela. Mais ensuite, je ne dois pas oublier d'où je viens. Parce qu'il y a encore beaucoup qui demeurent en moi. Le Seigneur doit vraiment finir le travail en moi. Non? Bien entendu. Quelqu'un m'a dit il y a longtemps, oh, je suis transformée à 99%. Et toute la congrégation était là, waouh, bravo, ils applaudissaient. Seigneur Jésus, transformé. Transformé non pas d'une chenille en papillon, mais en pas en magnifique papillon, mais dans un papillon de nuit. Comment peux-tu? Ce n'est pas approprié. Nous marchons par la foi. Paul nous dit, non pas que je sois déjà parfait, je n'ai pas atteint le but encore. Même Paul a dit ça. À l'époque, je ne pouvais pas le croire quand j'ai vu ça. Comment ça, Paul, tu n'es pas encore perfectionné? Et tu veux accélérer, tu veux aller de l'avant. En écrivant Philippiens, il nous dit « Je ne suis pas encore parfait. » Et c'est pourquoi Pierre écrit « Je suis Simon Pierre, nous rappelons ainsi qu'il a été Simon Pierre, fils de Jonas. Il est né dans la chair. Ce qui est né de la chair est chair et reste de la chair. Soyez prudents. Nous sommes nés de nouveau d'une semence incorruptible. Mais c'est juste une semence qui est plantée. Cette semence, elle a besoin de croître. Elle ne sera jamais corrompue. Elle est incorruptible, mais elle est encore sous la forme de semence. On doit désirer le... Est-ce qu'on doit désirer le lait spirituel et pur en tant qu'adulte? Non, parce qu'on est devenu des adultes. On devrait plus désirer le lait. Les adultes, ils mangent plus, ils boivent plus du lait. T'es trop vieux pour boire du lait. Risque même d'avoir des problèmes dans ton corps. Donc il dit dans 1 Pierre, comme un enfant nouveau-né, désirez le lait spirituel et pur. Mais c'est juste le début. Maintenant dans 2 Pierre, il faut plus boire du lait. Il faut être diligent. Diligent pour croître. Pour manger ce qui est nécessaire. C'est pourquoi nous avions besoin de la deuxième épître de Pierre. Donc Pierre nous dit, là, Simon, Pierre, j'apprécie vraiment cela. Je ne crois pas que Pierre serait fâché contre moi. Que je lui dise par erreur, salut Simon. Il dirait, oui, c'est moi. Oui, c'était moi avant. Mais maintenant, tu peux m'appeler Pierre. Parce que le Seigneur a besoin de faire plus de travail. Vous avez demandé qu'on chante le bon chant. Seigneur, sanctifie-nous. Et c'est aussi ce que nous dit Hébreux au sujet de notre souverain sacrificateur, qui est capable de quoi? De nous sauver à la perfection. Sauver à la perfection. Ça veut dire que ce travail de transformation ne se fait pas juste du jour au lendemain, mais c'est une question de collaboration. Si nous ne collaborons pas avec lui, si nous ne sommes pas diligents, ça veut dire que nous sommes constamment en train de chercher à collaborer avec le Seigneur. Combien de temps est-ce que Enoch a marché avec Dieu? 3 jours? Oh, 30 jours. Bon, ok, 30 ans. Est-ce que tu as 300 ans à disposition? Non. Alors tu dois être plus diligent que Enoch. Veut dire que nous devons être encore plus diligents que Enoch. Combien de fois plus diligent? Où est celui qui calcule ici? S'il a eu besoin de 300 ans pour marcher avec Dieu et ensuite il a été pris, à quelle vitesse devons-nous avancer avec le Seigneur? Combien plus vite devons-nous marcher? Mais maintenant, nous n'avons que 2 ans. Alors, à quelle vitesse est-ce qu'on doit le faire? Nous n'avons pas ce concept en nous. Le Seigneur revient et nous ne sommes pas sauvés parfaitement. Thessaloniciens 5, il dit, soyez sanctifiés entièrement. Esprit, âme et corps. Et être perfectionné pour être transformé à son image de gloire en gloire. Nous devons admirer sa gloire. Combien est-ce que nous admirons sa gloire chaque jour? Qu'est-ce que nous admirons? Nous apprécions encore tant de choses, peut-être pas autant qu'avant. Mais notre désir d'admirer la gloire du Seigneur doit croître. Avec un visage dévoilé. C'est pour cela que le sacerdoce est si important pour nous souvenir de Christ chaque jour. Même quand tu es au téléphone et tu aurais envie de t'énerver, Seigneur te rappelle non. Téléphone. Notre frère peut avoir la gloire du Seigneur en parlant. C'est fabuleux. La transformation est nécessaire. De gloire en gloire. Juste un peu de changement n'est pas suffisant. Mais pour être transformé, ça veut dire que quelque chose de lui doit être ajouté en nous. Sans surprise. Pierre dit que la paix vous soit multipliée. Pas juste qu'elle vous soit donnée, mais qu'elle vous soit vraiment multipliée. Que dit-il dans 1 Pierre? Dans 1 Pierre, il dit que la paix soit avec vous tous. Mais dans 2 Pierre, il dit qu'elle vous soit multipliée. En français, c'est déjà multiplié dans 1 Pierre. Un peu de grâce et un peu de paix. Mais combien de fois est-ce qu'elles doivent être multipliées? Combien de fois dans ta vie quotidienne as-tu besoin qu'elles soient multipliées? 150 fois pour être comme Enoch. Sinon, tu n'y arriveras pas. Les apôtres ont vraiment expérimenté cela. Est si court. Il y a encore des choses à où nous devons avancer. On utilise tellement ce mot, Seigneur, je vais te perfectionner. Ça prend du temps. Enoch. Ça prend du temps de croître. Ça prend du temps. Ça prend du temps de continuer d'ajouter. Tu ne peux pas juste ajouter toutes les vertus en une fois. Sur ton être, tu n'as pas une telle capacité. Combien est-ce que tu manges chaque jour? Des tonnes de nourriture, comme ça je grandis plus vite. Si il y a un bébé qui s'appelle Enoch dans la salle. Si tu nourris Enoch avec des tonnes de nourriture, ça ne va pas aller, mais tu dois mesurer la quantité de lait que tu lui donnes. Tu ne dois plus forcément mesurer si précisément, mais tu lui donnes un biberon à la fois. Tu ne vas pas lui donner tellement à la fois d'un coup, mais un petit peu. Et encore un petit peu. Nous n'avons pas la capacité. Mais nous avons besoin de beaucoup de grâce pour nous fortifier, pour nous supporter. C'est pourquoi Pierre utilise là le mot d'ajouter et non pas multiplier. Ah, pardon, c'est l'inverse de ce que je disais avant. Là, il parle d'ajouter et puis de multiplier. Ça ne marche pas si vite. Louez le Seigneur pour un tel frère d'un pécheur. Il est devenu un esclave de Dieu et un apôtre envoyé par Dieu, tellement utile pour le plan de Dieu. Il ne dit pas « je suis l'apôtre ». Personne ne dit « je suis l'apôtre ». Ça veut dire qu'il serait le seul. Et j'ai entendu souvent, Seigneur n'a jamais utilisé plus qu'un apôtre à la fois dans un âge. Est-ce que vous croyez qu'il pensait je suis l'apôtre? Est-ce que Jean dit je suis l'apôtre et Pierre dit je suis l'apôtre, souligné trois fois et même mis en évidence? Si on parle de l'apôtre, c'est le Seigneur. C'est lui qui est l'apôtre, celui qui a été envoyé par Dieu et le grand souverain sacrificateur. Personne d'autre ne peut être appelé l'apôtre. Mais il doit y en avoir beaucoup. Et beaucoup d'entre nous, même les plus jeunes, le Seigneur doit vous envoyer. Nous envoyer tous vers nos collègues, nos amis. Là, dans la parole, un apôtre, c'est celui qui amène le plan de Dieu et sa parole. Sinon, comment tes collègues au travail vont être amenés à connaître le Seigneur si toi, tu connais la vérité et que tu ne la leur dis pas? Est-ce que vous avez ce désir d'être des apôtres? Nous devrions dire « Amen, Seigneur, je veux être ton apôtre. » Pas le seul. Nous avons besoin d'avoir ce désir d'être envoyé par Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois être envoyé en Afrique. Le Seigneur y a déjà de nombreux apôtres. Mais chez Apple, à ton travail, qu'en est-il? Là où le Seigneur t'a envoyé pour travailler. Là, tu es un apôtre. Mais tu as besoin d'avoir un désir. Seigneur, envoie-moi. Comme Ésaïe, le Seigneur a demandé, qui enverrai-je? Même Dieu a demandé qui? Dieu ne va pas te forcer. Et quand le Seigneur demande, c'est qu'il veut des volontaires. Oui, le Seigneur, peu importe où nous sommes, chacun de nous peut être un apôtre du Seigneur, envoyé par le Seigneur. Il t'a placé là, pas pour avoir un bon travail, mais à côté de ce bon travail, c'est pour son plan. Que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et cette volonté sur la terre peut être faite au travers de beaucoup d'apôtres. Partout où nous sommes ses esclaves, ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs, chacun de nous est un serviteur du Seigneur. La seule différence, c'est la capacité. La mesure de grâce. À part cela, il n'y a aucune différence. Un serviteur est un serviteur. Ça dépend du travail que le Seigneur t'a donné à faire. Mais plus ou moins, tu es un serviteur. Ça dépend aussi de combien de talents tu as reçus. D'après Matthieu 25. Certains en ont 5, d'autres 2 ou 1, mais c'est égal. Nous devons faire notre travail. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Et nous avons besoin de transformation. Comme Pierre. Que le Seigneur nous impressionne par cela. Ce que Pierre a écrit dans 2 Pierre est très important pour nous préparer pour la venue du Seigneur. S'il vous plaît, passez au travers de cette parole. Mémorisez-la. Priez avec. Que le Seigneur nous montre, nous donne sa lumière et nous donne des révélations.